Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Magali Regueza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe. Vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous êtes membre du laboratoire de géographie physique de Meudon. Vous venez de publier aux éditions du manuscrit avec Cynthia Gora-Gobin un collectif intitulé « Les territoires dans la mondialisation entre local et global » auquel je renvoie nos auditeurs. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous revenions sur votre thèse, soutenue il y a déjà quelques temps, en 2006, je crois, thèse passionnante qui a été publiée en livre chez Fayard, et livre qui est hélas épuisé aujourd'hui, et qui s'appelle « Paris coule-t-il ?» Livre sur la vulnérabilité de la métropole parisienne face au risque d'inondation. Et évidemment, les pluies quasi ininterrompues de ces mois de mai et de juin 2016 nous font nous interroger sur les crues, celles qui viennent d'avoir lieu, celles du passé et celles apparemment inexorables du futur. Donc première question, Magali, comment analysez-vous la dernière crue en région parisienne ? Que s'est-il passé ?
Alors, c'est un événement assez atypique du point de vue climatique, puisque d'habitude, on a des crues de la Seine en janvier-février. Et là, en fait, on a eu un phénomène exceptionnel, au sens où il n'arrive pas tous les ans, avec des fortes précipitations qui ont été concentrées sur ce qu'on appelle les affluents franciliens de la Seine, donc assez proches de Paris, donc l'eau est montée très vite. Et il y a eu deux phénomènes qui se sont produits. Le premier, c'est que comme on a beaucoup de gens qui, depuis un siècle, se sont installés dans les zones inondables, on a eu beaucoup de dommages, c'est l'exposition de nos sociétés qui augmente. Et puis, la Seine est montée à Paris. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié que ça pouvait arriver. Alors, elle n'est pas montée très haut, elle est montée à 6,10 m, une crue centennale, c'est-à-dire une crue qui a une chance sur 100 par an d'arriver, c'est 8,62 m, donc c'est 2,62 m de plus. Mais c'est vrai que ça a finalement fait une piqûre de rappel et de se dire, dans des villes, même pas n'importe quelle ville, dans la capitale de la France, dans une ville globale, intégrée à la mondialisation, connectée, moderne, eh bien, les fleuves continuent à déborder et on se rend compte que s'ils étaient montés un peu plus haut, on aurait eu sans doute beaucoup, beaucoup plus de problèmes.
Mmh. De dégâts, de catastrophes. Alors, dans votre livre « Paris coule-t-il », dont la structure m'a paru extrêmement intéressante et elle-même un objet de questionnement, vous parlez de la crue centennale de 1910, crue catastrophique et dont j'aimerais que vous nous proposiez une description rapide en termes d'impact et de conséquences économiques.
Alors, d'abord, il faut rappeler qu'on est dans une période très particulière de l'histoire de France. On est juste après l'exposition universelle, dans cette belle époque où Paris est la fée de la modernité. Et à l'époque, tout le monde est persuadé que ça n'arrivera jamais. Et puis la Seine monte, on est en janvier, la Seine monte. Alors, il faut rappeler aussi que Paris, à l'époque, est beaucoup moins étendue qu'aujourd'hui. La banlieue existe, mais elle est moins développée. La Seine se met à déborder et elle envahit les rues de la capitale. Alors, c'est aussi le début de la photographie. Mmh. On est à la veille de la Première Guerre mondiale, et donc dans une sorte d'élan patriotique, on va se mettre à se photographier. Alors, il faut voir aussi que c'est la première fois que les gens se font photographier. Et donc, on a des images de cette crue. On a l'impression que c'est Venise avec ses canaux. Alors, en réalité, les Franciliens qui ont vécu les crues récemment le savent. Ça sent mauvais, c'est turbide, voilà. Et donc, tout s'arrête. Par exemple, l'air comprimé qui permet, qui est très important, s'arrête. Et toutes les pendulaires comprimées de la ville s'arrêtent à la même heure. On a aussi alors des déchets. Par exemple, il faut imaginer qu'à l'époque, les déchets sont jetés dans la Seine. Et puis alors, c'est presque...
Normalement, sont jetés dans la Seine.
Alors normalement, non, ils ne sont pas jetés dans la Seine. Mais comme on en a tellement, eh bien, les soldats de la troupe, puisqu'à l'époque, on a une armée de construction, jettent les déchets à la Seine. Et donc, c'est vrai que c'est un moment un peu totalement... fou,
parce qu'on... La dyshygiénie.
Exactement. Et tout ce qui fait finalement que la société, à un moment, se dit civilisée, arrachés à la nature, vraiment dans ce sens de la kiwitas, hein, et ben finalement se retrouvent dans les retour à l'état de nature.
Voire de barbarie.
Alors, ce qui est très intéressant en même temps, c'est que se reconstruit du coup toute une solidarité. Et on voit par exemple beaucoup de photos d'entraide. Alors, on a évidemment masqué dans ces récits tous les aspects négatifs. On a notamment mis de côté la banlieue qui a énormément souffert, avec des effondrements de maisons, avec du chômage technique, avec des gens qui ont souffert énormément du froid et de la faim. On a mis aussi de côté les émeutes qu'il y a pu avoir, et notamment des gens excédés et fatigués qui ont cru voir dans certaines personnes qui étaient des marginaux, bien tout simplement la figure du voleur, donc avec des lynchages aussi qui se sont produits. Mais c'est vrai que globalement, ça a été un moment où on a exalté la solidarité des Parisiens, et finalement, ça a été relu dans une espèce d'allégorie patriotique, ce qui est d'ailleurs assez amusant quand on le regarde avec du recul, parce qu'aujourd'hui, quand on a ce type de catastrophe, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la logique de Paris, mais bien de Paris dans le monde. Les attentats récents nous ont rappelé que quand Paris est touché, c'est le monde entier qui pleure et qui est solidaire, comme toutes ces grandes métropoles. Alors, avec toutes les inégalités, les phénomènes d'exclusion, parce qu'évidemment, on n'a pas le même rapport quand c'est Paris ou Londres ou New York, et puis quand ce sont des villes syriennes, irakiennes, africaines, voire asiatiques, où là, c'est tellement loin qu'on n'en parle même plus. Mais c'est vrai que la lecture qu'on a pu faire de cet événement en 1910, et puis la lecture qu'on aurait aujourd'hui serait totalement différente. Juste un exemple, aujourd'hui, en cas de crue, on ferait venir les forces européennes, parce qu'il y a cette construction européenne qui change la donne. En revanche, on n'a plus d'armée de conscription. On avait 100 000 militaires, piou-piou, on les appelait les piou-piou à l'époque, qui étaient présents, avec des marins qui venaient des marins soldats, des marins pompiers. Aujourd'hui, on aurait beaucoup moins d'hommes, puisqu'évidemment, il n'y a plus cette armée de construction. Donc en fait, la comparaison entre 1910 et aujourd'hui, nous permet de voir comment derrière une ville qui semble, Paris sera toujours Paris, qui semble éternelle, on a une transformation profonde des structures sociales, économiques, politiques, et plus largement, moi qui suis géographe, ce qui m'intéresse, c'est du territoire, c'est-à-dire des organisations de cet espace. Et donc on voit à peu près la même chose, même si on se rend compte avec la Défense, avec Beaubourg, avec ça a changé, même si on voit que la banlieue s'est étendue, même si on voit qu'il y a des réseaux aujourd'hui qui se sont construits, qu'en fait, derrière ce paysage urbain, il y a des profondes transformations qui en disent très long sur les transformations de nos sociétés. Et tout l'enjeu pour moi, c'était de travailler, de prendre la catastrophe comme un prisme, non pas pour elle-même, mais pour analyser les transformations profondes qui affectent nos sociétés et qui se lisent dans l'espace, dans l'épaisseur spatiale des phénomènes.
Alors, justement, question logique, qu'est-ce qui s'est profondément transformé entre 1910 et aujourd'hui et qui ferait que si une crue centennale apparaissait aujourd'hui, enfin je ne sais pas le verbe exact, qu'est-ce qui aurait changé?
Juste pour vous donner une idée, en 1910, on a à peu près 1 milliard de dommages. Le même événement aujourd'hui, on produirait 30 milliards et sur 5 ans, 60 milliards. Aujourd'hui, c'est près de 860 000 personnes qui seraient directement inondées et 5 millions qui seraient impactées à des degrés divers. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres.
Sur les mêmes échelles.
La grosse différence, c'est que justement, la région parisienne est devenue ce qu'on appelle en géographie une métropole. C'est-à-dire une ville fortement intégrée dans la mondialisation. Et pour que cette intégration se produise, il faut des transformations structurelles qui se traduisent à la fois dans le bâti. Par exemple, aujourd'hui, on a enterré la ville sous les pieds pour mettre des infrastructures de transport, etc.
Huit étages.
C'est comme si on avait un immeuble de 8 étages sous nos pieds à Paris. Mais plus largement, finalement, c'est une restructuration de cette agglomération qui fait que aujourd'hui, on n'habite plus là où on travaille, on ne travaille plus là où on consomme, on ne consomme plus là où on se distrait. Et finalement, vous avez un archipel de lieux qui se construit et avec des interrelations très très fortes. Et ce sont ces interrelations, ces effets de dépendance qui font que vous avez une toute petite perturbation qui peut s'amplifier, qui peut se diffuser très rapidement. Et quand la perturbation est grande, eh bien forcément, elle est encore démultipliée. D'une certaine façon, on peut dire que finalement, c'est la complexification, la complexité vraiment
au sens
d'Edgar
Morin.
On est vraiment là-dedans. Ouais. Nous sommes dans des sociétés de plus en plus complexes parce que nos espaces, nos économies, nos systèmes productifs, nos systèmes sociaux, tout ce qui fait notre quotidien et plus largement notre insertion dans le monde est fait de ces liens compliqué à détricoter de ces imbrications, de ces intrications qui font que nous sommes tous solidaires les uns des autres, que les territoires sont solidaires les uns des autres. Et ça, ça change complètement le rapport au temps, ça change complètement le rapport à l'espace, ça change aussi complètement notre rapport à l'autre, à l'altérité. Et donc c'est vrai que finalement, penser cette complexité, c'est aussi penser l'émergence ou l'éruption d'une nouvelle forme d'incertitude. L'incertitude, c'est pas quelque chose de nouveau, elle a toujours existé.
Mais enfin, depuis Heisenberg, ça a été repensé.
Mais ça a été repensé, et aujourd'hui, finalement, on est face à des phénomènes aussi bien imprévisibles que mal connus, dont on n'est pas capable de savoir exactement ce qu'ils vont produire, parce qu'il y a des effets décalés dans le temps, dans l'espace, que tout ça, finalement, c'est une sorte d'immense réseau, d'immense jeu de dominos, où les dominos tombent les uns après les autres, certains se relèvent quand d'autres restent par terre. Et donc, cette complexité-là, c'est un défi pour nos sociétés. Et finalement, le cas de la métropole parisienne face à la crue, c'est un microcosme, moi je l'ai utilisé comme ça, pour penser finalement la complexité de ce monde, de ce que moi j'appelle la globalisation, qui n'est pas uniquement la mondialisation. La mondialisation, c'est le monde devient une échelle, et on peut penser le monde comme une échelle pertinente. Le monde est un territoire, je suis citoyen du monde, je me promène, la planète, la surface planétaire devient un espace approprié. La globalisation, c'est cette complexification, cette intrication, cette mise en relation intense et réciproque qui fait que nous sommes dans de nouvelles configurations, alors pas forcément complètement nouvelles, mais en tout cas qui nous demandent de changer de logiciel pour penser les choses.
Alors, je voudrais que nous parlions de cette partie de votre travail, Paris Coule-t-il, qui me paraît passionnante, sur le risque. Et au fond, ce que vous semblez expliquer, c'est que si on ne peut pas éviter l'aléa, on peut du moins éviter la catastrophe. Hein, il me semble que c'est la thèse que vous développez. Alors, deux questions en une. Est-ce que vous pourriez nous évoquer brièvement les rapports de l'homme au risque dans l'histoire, rapports qui ont bien changé? Et puis, j'aimerais bien, cette idée que vous développez m'intéresse beaucoup, éclairer la révolution que chacun doit opérer par rapport à cette construction sociale qu'est le risque.
Alors, le risque est une notion qui est datée et située et qui est vraiment très fortement associée à la modernité occidentale. Il y a un ensemble de mots pour parler de ces incertitudes, de ce qui est aléatoire, la menace, le danger, avec une connotation négative.
Oui, dramatisée.
Dramatisée, mais c'est vrai que c'est vraiment la modernité qui invente le risque comme un concept, pas simplement comme une notion, comme un concept qui permet de mettre l'incertitude dans un certain cadre de maîtrise. Et c'est ça d'ailleurs qui distingue ces sociétés occidentales. Et c'est vrai qu'avec la mondialisation, finalement, cette notion, ce concept de risque et cette méthodologie qui est aussi associée à des modèles libéraux, à des modèles de rationalité économique, tout ça va ensemble, se diffuse finalement et va vers d'autres sociétés qui, elles, ne pensent pas du tout le rapport au danger de la même façon. Il y a par exemple des sociétés qui n'ont pas le mot de risque. En japonais, le terme de risque n'existe pas. Il y a des travaux magnifiques du géographe Philippe Pelletier qui expliquent ça.
Pourtant, il y a des risques.
Et pourtant, il y a des risques. Mais on est dans un rapport différent. Je vous donne juste un exemple. Oui. En anglais, il y a un mot qui s'appelle cope with. En français, on le traduit toujours par
faire avec.
Faire contre, enfin faire face.
Faire face.
On est
faire
dans
avec.
L'opposition. Ouais. Le faire avec, le vivre avec est quelque chose qui est.
Ouais. Pas français, vous dites.
Enfin, c'est pas inclus dans notre façon de faire. Alors que, par exemple, dans les sociétés prémodernes, on vit avec. Ça veut pas dire du tout qu'on accepte, ça veut pas dire du tout qu'on est fataliste.
Mais on fait avec.
On fait avec, on intègre ça, on considère que finalement les dangers font partie du quotidien. Et donc.
Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai, et par exemple, on parle beaucoup des superstitions. Mais les superstitions sont une façon de faire face ou de faire avec, qui permettent par exemple de se rassembler quand on fait une procession contre la peste. Évidemment, c'est pas pour empêcher la menace.
Ça ne va pas empêcher la menace.
Mais c'est ce moment-là où la société se retrouve derrière des autorités religieuses, derrière des autorités civiles, qui vont pouvoir réaffirmer leur pouvoir, qui vont pouvoir réaffirmer le lien social, repenser la communauté. Alors évidemment, ça interroge des tas de questions.
On ne dit pas à l'Union rationaliste que nous sommes pour les processions. Nous disons, vous dites là, pardon, que dans la procession, ce lien social, la structure sociale apparaît clairement.
Bien sûr.
Et c'est pas comme ça qu'on va lutter contre une inondation.
Et quand on voit, par exemple, toutes les adaptations, enfin, tous les aménagements que les sociétés ont mis en place pour faire face à la pénurie ou à l'excès d'eau, ce sont des aménagements du territoire. Alors, Là aussi, il y a une différence. La valeur, par exemple, de l'individu a beaucoup changé. La valeur absolue de l'individu, qui est quelque chose qui n'existe pas ou pas comme ça à l'époque prémoderne. Et par exemple, quand on est sur des territoires prémodernes, on est plutôt sur le maintien de la collectivité, du collectif, l'individu venant après. Mais tout ça, finalement, ça interroge énormément de notions philosophiques. Mmh, enfin, vraiment, mmh. on est là au cœur du sujet. Et on voit bien que ces sociétés... Alors, il y a énormément de façons de composer avec les risques. Aujourd'hui, nos sociétés modernes se trouvent peut-être en décalage par rapport à la nature des menaces et par rapport à leurs exigences sécuritaires. Mmh. Ayant oublié, finalement, que la sécurité a un coût. Un coût, bien sûr, financier, un coût environnemental aussi, mais plus largement un coût social et politique. Et je vous donne juste un exemple, mmh. on le voit avec les grandes menaces type changement climatique. L'incertitude finalement est réappropriée par certains acteurs politiques où on explique aux gens que bah, la vie c'est l'incertain. Donc la vie individuelle doit être incertaine et finalement il faudrait être même toujours plus flexible pour arriver à la stabilité du collectif. Cette injonction qui est vraiment une injonction forte et très chargée de morale aujourd'hui, peut être discutée parce qu'elle est idéologique.
Bien sûr.
Je ne dis pas qu'il faut la rejeter, je ne dis pas qu'il faut l'accepter, mais aujourd'hui, on voit que ce champ des risques est traversé par des représentations, par des discours, par des idéologies, par des injonctions morales. On assiste notamment à une remoralisation de la catastrophe, avec notamment une condamnation des victimes, qui fait que, là aussi, ces risques ne sont pas questionnés.
Condamnation des victimes parce que leur...
Parce qu'assistées, parce que se complaisant dans leur statut, parce que aujourd'hui non résilientes. Donc on a cette condamnation, oui, qui peut émerger dans certains discours.
Alors on comprend, Magali Righezza, à quel point vous introduisez la raison et le rationalisme à l'intérieur des phénomènes géographiques.
Je suis une horrible rationaliste.
Magali Righezza, je vous remercie.
Merci à vous.
Je remercie Dany Journeau et Guillaume Leduc qui ont rendu possible cette émission. Je renvoie au site de l'Union Rationaliste où j'inscrirai les livres de Magali Righezza et je vous dis au mois prochain.